tout ce que nous leur prescrivons ici, mon cher Adimante, n'a pas autant d'importance qu'on pourrait se l'imaginer. Ce n'est rien. Il ne s'agit, comme on dit, que d'observer un point, le seul important, ou plutôt, le seul qui suffise. Quel est ce point, Socrate? L'éducation de l'enfance et de la jeunesse. Si les jeunes gens, bien élevés, deviennent des hommes accomplis, ils comprendront alors facilement l'importance de tous ces points, et de beaucoup d'autres que nous omettons ici, sur les femmes, le mariage et la procréation des enfants, toutes choses qui, selon le proverbe, doivent être le plus possible communes entre amis. Très bien. Tout dépend de la première impulsion. Est-elle une fois bonne? L'état va s'agrandissant sans cesse, comme le cercle. Conservez la bonne éducation, et elle fait d'heureux naturels qui, grâce à cette éducation, deviennent de meilleurs citoyens que ceux qui les ont précédés, et qui, entre autres avantages, ont celui de mettre au monde des enfants meilleurs que leur père, comme il arrive aux animaux. Cela doit être. Ainsi, pour tout dire en peu de mots, les gardiens de l'État doivent veiller à ce que rien ne corrompe l'éducation, mais par-dessus tout, à ce qu'aucune innovation ne s'introduise dans la gymnastique et la musique. De peur que si un poète dit « Les hommes goûtent de préférence l'air le plus nouveau qu'invente le joueur de luth », on ne s'imagine souvent que le poète parle non d'air nouveau, mais d'une nouvelle manière de les chanter, et qu'on en fasse l'éloge. Or, il ne faut louer ni introduire aucune innovation pareille. Qu'on y prenne garde. Innover en musique, c'est tout compromettre. Car, comme dit Damon, et je suis en cela de son avis, on ne saurait toucher aux règles de la musique sans ébranler en même temps les lois fondamentales de l'État. Compte-moi parmi ceux qui pensent de même. Il faut donc faire de la musique, à ce qu'il semble, comme la citadelle de l'État. Et pourtant, le mépris des lois y pénètre sans qu'on s'en aperçoive. Oui, sous la forme de jeu et sans avoir l'air de faire du mal. En effet, d'abord, il ne fait que s'insinuer peu à peu et se glisser sans bruit dans les mœurs et les usages. Ensuite, grandissant, il se mêle dans les relations sociales, et de là, s'avançant avec audace jusqu'aux lois et aux principes du gouvernement, il ne s'arrête pas, Socrate, qu'il n'ait consommé la ruine de l'État et des particuliers. Oui. Est-il vrai qu'il en soit ainsi? Il me le semble. Il faut donc, comme nous le disions en commençant, que, dès leurs premières années, les jeux des enfants soient soumis à des lois plus sévères. Car si ces jeux et ceux qui y prennent part sont déréglés, il est impossible qu'il en sorte jamais des hommes soumis aux lois et vertueux. Comment le deviendrait-il, oui, Socrate? Au lieu que si les enfants sont réglés de bonne heure dans leur jeu, l'amour des lois s'introduit dans leur âme avec la musique. Il les suit et les développe dans un sens contraire à celui dont nous venons de parler, et redresse ce qu'il peut y avoir à redresser dans l'état. Tu dis vrai. Alors, ils retrouvent eux-mêmes des règles qui paraissent de peu d'importance, et que leurs devanciers avaient laissés entièrement dépérir. Quelle règle, par exemple? Celle-ci. Garder le silence convenable en présence des vieillards, leur céder la place d'honneur, se lever quand ils paraissent, rendre toutes sortes de soins à ses parents, se conformer à tel ou tel usage dans la manière de se couper les cheveux, de s'habiller, de se chausser, dans tout ce qui regarde le corps et dans les autres choses semblables. Ne penses-tu pas qu'ils retrouvent d'eux-mêmes tout cela? Oui. Ce serait une grande simplicité de faire des lois là-dessus, car outre que jamais on n'en fait de pareilles, elles ne seraient pas plus observées pour être imposées par écrit ou de vive voix. Eh oui, comment cela serait-il? Mon cher Adimante, telles sont les conséquences que l'éducation peut produire, selon les principes qu'on lui donne. En effet, le semblable n'attire-t-il pas toujours le semblable? Sans doute. Nous pourrions ajouter, je pense, que toutes ces conséquences aboutissent à un dernier et grand résultat, soit en bien, soit en mal. Cela doit être. Voilà pourquoi je n'entreprendrai jamais de faire des lois sur ces sortes de choses. Et avec raison, Socrate. Mais par les dieux, oserons-nous porter des lois sur les contrats de vente ou d'achat, sur les conventions pour la main-d'œuvre, sur les insultes, les violences, l'ordre des procès, l'établissement des juges, la levée ou l'imposition des deniers pour l'entrée et la sortie des marchandises, soit par terre, soit par mer, en un mot, sur ce qui concerne le marché, la ville ou le port, et tout le reste? Il convient de ne rien prescrire là-dessus à d'honnêtes gens. Ils trouveront eux-mêmes sans peine la plupart des règlements qu'il faudra faire. Oui, mon cher ami, si Dieu leur donne de conserver intactes les lois que nous avons d'abord établies. Sinon, ils vont passer toute la vie à faire et à refaire sans cesse une foule de règlements semblables, en s'imaginant qu'ils arriveront à quelque chose de parfait. C'est-à-dire que leur conduite ressemblera à celle de ces malades qui ne veulent point, par intempérance, renoncer à un train de vie qui altère leur santé. Justement. En vérité, la conduite de ces malades est plaisante. Tous les remèdes qu'ils prennent ne servent qu'à compliquer et empirer leur maladie. Et cependant, à chaque remède qu'on leur conseille, ils attendent toujours la santé. Tels sont en effet les malades. N'est-ce pas chez eux une chose plaisante de regarder comme un ennemi mortel celui qui leur dit, franchement, que s'ils ne cessent de se livrer au plaisir de la table et de l'amour et à l'oisiveté, ni les potions, ni l'emploi du fer ou du feu, ni les enchantements, ni les amulettes ne leur serviront de rien? Mais je ne vois rien de bien plaisant à s'emporter ainsi contre ceux qui vous donnent de bons conseils. Tu n'es pas, à ce qu'il paraît, trop partisan de ces sortes de gens. Eh non, par Jupiter. Ainsi, pour revenir à ce que nous disions, tu n'approuveras pas davantage un État qui tiendrait une pareille conduite. Or, ne te semble-t-il pas que cette conduite est celle des États qui, tout mal gouvernés qu'ils sont, défendent aux citoyens, sous peine de mort, de toucher à leur constitution? Et où celui qui traite le plus agréablement les vices du gouvernement, qui lui complaît en le flattant, qui prévoit ses intentions et se montre habile à les remplir, passe pour un bon citoyen, d'une grande habileté politique, et se voit comblé d'honneur. Oui, c'est la même conduite, et je suis bien loin de l'approuver. N'admires-tu pas, cependant, le courage et la complaisance de ceux qui consentent, qui s'empressent même, à donner des soins à de pareils états? Oui, je les admire, excepté ceux qui se laissent tromper au point de s'imaginer qu'ils sont réellement des hommes d'État à cause des applaudissements que leur donne la multitude. Quoi? Tu ne les excuses pas? Crois-tu qu'un homme ignorant dans l'art de mesurer, qui entendrait dire par une foule de personnes qu'il a quatre coudées, pourrait en douter? Non. Ne t'emporte donc pas contre nos politiques, car ce sont les gens les plus propres à nous divertir avec leurs règlements, sur lesquels ils reviennent sans cesse, dans la persuasion qu'ils trouveront la fin des abus qui se glissent dans les conventions et dans les autres choses dont nous parlions tout à l'heure, sans se douter qu'ils coupent les têtes d'une hydre. En effet, ils ne font pas autre chose. En conséquence, je ne crois pas que, dans un état quelconque, bien ou mal gouverné, un véritable législateur doive se mettre en peine de lois et de règlements semblables. Dans l'un, ils sont inutiles et on n'y gagne rien. Dans l'autre, ils se présentent aux premiers qui les cherchent, où ils découlent naturellement des institutions déjà établies. Que nous reste-t-il encore à faire en législation? Rien. Mais c'est à Apollon Delphien de faire les plus grandes, les plus belles lois, les premières des lois. Quelles sont ces lois? Celles qui concernent la manière de construire les temples, les sacrifices, le culte des dieux, des génies, des héros, les funérailles et les cérémonies qui servent à apaiser les mânes des morts. Nous ne saurions faire ces lois. Et, fondateurs d'un État, nous ne devons point, si nous sommes sages, nous en rapporter là-dessus aux autres hommes, ni consulter un autre interprète que celui du pays. Et le dieu de Delphes est, en effet, l'interprète naturel du pays en pareille matière, puisqu'il est placé, et rend ses oracles, au centre même, et comme au nombril de la terre. Bien, nous ferons comme tu dis. Fils d'Ariston, voilà notre état fondé. Maintenant, prends où tu voudras un flambeau. Appelle ton frère, Polémarque, tous ceux qui sont ici, et cherchez ensemble en quel endroit résident la justice et l'injustice, en quoi elles diffèrent l'une de l'autre, et à laquelle des deux on doit s'attacher pour être heureux, qu'on échappe ou non au regard des dieux et des hommes. Tu as tort de t'adresser à nous, reprit Glaucon, car tu t'es engagé à faire toi-même cette recherche, te déclarant impie si tu renonçais à soutenir de tous tes moyens la cause de la justice. Tu me rappelles ma promesse, je vais donc la remplir, mais il faut que vous m'aidiez. Eh bien, soit, nous t'aiderons.